Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mardi 9 mai 2023. En Côte d'Ivoire, Chantal Nanaba Camara a été nommée présidente du Conseil constitutionnel pour une durée de 6 ans en remplacement de Mamadou Koné. Au Sénégal, l'opposition appelle à la mobilisation contre une inéligibilité de Ousmane Sonko.
C'est mieux de laisser la justice faire son travail, mais il faut cependant que l'impartialité demeure. La politique de deux poids, deux mesures ne peut pas être pérenne dans un état de droit.
Reportage à suivre de notre correspondant à Dakar dans la partie magazine. En RDC, plus de 5500 personnes sont toujours portées disparues après les inondations. Le Soudan enregistre plus de 700 000 déplacés internes en raison des violences. Massacre de Chakaola au Kenya, des organes manquaient sur les cadavres, selon les enquêteurs. Le président Joe Biden reçoit les parlementaires américains pour discuter du relèvement du plafond de la dette. Ne manquez pas notre page fond ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé ce mardi la magistrate Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel, pour une durée de 6 ans à compter du 21 juillet 2023. Les détails avec Delphine Bouiz, notre correspondante à Abidjan.
La magistrate Oirachi Chantal Nanaba Camara a été nommée présidente du Conseil constitutionnel du Côte d'Ivoire pour une durée de 6 ans. Elle va remplacer à ce poste le magistrat Koné Mamadou. Chantal Nanaba Camara était jusque-là présidente de la Cour de cassation. Sa nomination prend effet à compter du 21 juillet 2023, rapporte le communiqué de la présidence. Par ailleurs, le communiqué indique que le président de la République va procéder ultérieurement aux nominations de 3 conseillers au Conseil constitutionnel en remplacement de ceux dont le mandat arrive à expiration le 26 juillet 2023. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Au Sénégal, la coalition d'opposition Yewi Askanoui a appelé aujourd'hui à la mobilisation contre la menace d'inéligibilité pesant sur un de ses leaders, Ousmane Sonko, à la suite de sa condamnation en appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure contre le ministre du Tourisme, Mam Mbaye Niang. Khalifa Sall et d'autres chefs de cette coalition ont appelé les Sénégalais à se mobiliser pour une marche déjà prévue vendredi et une nouvelle annoncée pour le 19 mai. Ousmane Sonko doit être jugé la semaine prochaine dans une autre affaire de viol présumé. L'opposition crie au complot pour l'écarter de l'élection présidentielle de 2024. En Guinée, 3 personnalités de la société civile refusent la liberté sous condition. D'après le collectif d'avocats qui les défend, le pouvoir a proposé à Oumar Sylla, alias Fonike Mangé, Ibrahima Diallo et Mamadou Biouba de les libérer contre l'engagement de renoncer à militer. Les prisonniers rejettent toute offre de libération sous contrôle judiciaire et tout engagement de renonciation à leur combat citoyen, selon la médiation dirigée par des leaders religieux. Les 3 détenus sont des responsables du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC, qui a été dissous par la junte. Fonike Mangé et Ibrahima Koulibaly, Ibrahima Diallo, sont détenus depuis juillet 2022. Mamadou Bioba, lui, est détenu depuis janvier 2023. Le bilan des inondations dans l'est de la RDC ne cesse de s'alourdir. Des cadavres sont retrouvés sous la boue et certains blessés succombent à leurs blessures. Des milliers de personnes sont toujours portées disparues. Plus d'infos avec Nani Talani.
Selon l'administrateur local, Thomas Bakenga Zirimwa Bagabo, plus de 500 500 personnes sont toujours portées disparues suite aux inondations il y a 5 jours qui ont rasé des maisons, détruit des récoltes et tué des centaines de personnes. Des responsables gouvernementaux ont apporté ce mardi des couvertures, de la nourriture et une poignée de cercueils à Nyamukubi pour des enterrements dignes. Ils ont aussi donné environ 1 100 $ à chacune des 200 familles touchées. Mais la délégation n'a pas participé aux enterrements comme prévu, ni visité Bouchouchou, où le nombre de morts serait plus important, car c'était le jour du marché, lorsque les inondations et les glissements de terrain ont frappé. La Croix-Rouge estime que plus de 8 000 personnes ont besoin d'assistance, mais les efforts d'aide sont entravés par un manque d'accès et de ressources. Les sans-abri sont entassés dans les quelques bâtiments publics restés intacts, avec de mauvaises conditions sanitaires. Certains survivants demandent au gouvernement de les reloger loin de l'endroit du sinistre.
Les combats et pillages se poursuivent au Soudan alors que les négociations en Arabie Saoudite piétinent depuis dimanche. Plus de 700 000 personnes ont été déplacées par la guerre, selon l'ONU. Les détails avec Alexandrine Ollognon.
Il n'y a aucune avancée majeure dans les prédiscussions sur un cessez-le-feu temporaire que des négociateurs des deux camps tiennent à Jeddah, en Arabie Saoudite. Parallèlement aux Américains et Saoudiens, l'Union africaine tente d'organiser des discussions sous l'égide du président du Soudan du Sud, Salva Kiir. En attendant que ces discussions aboutissent, la capitale soudanaise, Khartoum, est toujours sous le coup des bombardements et des pillages. Le nombre de déplacés internes est désormais à plus de 700 000. C'est plus du double qu'une semaine plus tôt, selon l'ONU. Ceux qui sont restés dans la capitale vivent pour la quatrième semaine consécutive barricadés chez eux, sans eau ni électricité, avec des stocks de nourriture quasiment à sec. Plus aucun hôpital ne fonctionne et les réserves humanitaires ont été bombardées ou pillées. La guerre a fait plus de 750 morts, 5000 blessés et près de 150 000 réfugiés dans les pays voisins.
L'effroi et l'incompréhension continuent au Kenya. Certains cadavres retrouvés dans la forêt de Shakaola, dans le sud-est, où se réunissaient les membres d'une secte évangélique pratiquant un jeûne extrême, présentent des organes manquants. Les détails avec Claire Morizibou.
Les autopsies pratiquées sur 112 corps montrent que la plupart des victimes sont mortes de faim, mais certaines, dont des enfants, ont été battues, étouffées ou étranglées. Les autopsies ont également relevé des organes manquants sur certains des corps exhumés, indique un document judiciaire du directoire des enquêtes criminelles qui évoque un trafic d'organes humains bien coordonné impliquant plusieurs acteurs, sans plus de détails. Dans le même temps, les recherches continuent, les enquêteurs fouillent une vingtaine de nouvelles fosses communes qui pourraient contenir plusieurs victimes, a affirmé le ministre de l'Intérieur, Kitouré Kindiki, présent sur place.
Le président français Emmanuel Macron a reçu discrètement hier soir son homologue comorien Azali Assoumani sur fond des tensions engendrées par l'opération Wambushu menée par les autorités françaises à Mayotte pour déloger des bidonvilles des sans-papiers en grande majorité venus des îles voisines des Comores. Dans un entretien avec un quotidien français, le président comorien explique qu'il demande la levée du visa imposé par la France qui fait que les Moéliens, les grands Comoriens et les Anjouanais ne sont pas libres d'aller et venir à Mayotte pour voir leur famille, par exemple.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden reçoit aujourd'hui les ténors de l'opposition républicaine, sans grand espoir de dénouer le conflit sur la dette publique. Les États-Unis risquent un défaut de paiement après le 1er juin. Le point avec Michel Joseph.
Le président américain a convié cet après-midi à la Maison-Blanche les représentants démocrates et républicains de la Chambre et du Sénat. La réunion elle-même dans le bureau ovale a peu de chances de déboucher sur un accord. Les républicains de la Chambre sont en train de fabriquer une crise de toutes pièces, a fustigé lundi Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche. Nous ne voterons pas pour un texte qui augmente le plafond de la dette sans réduction substantielle des dépenses, ont affirmé une quarantaine de sénateurs conservateurs. Pour lever la menace d'un défaut de paiement qui serait du jamais vu, Joe Biden a besoin de trouver un terrain d'entente avec l'invité le plus en vue, Kevin McCarthy, qui préside la Chambre des représentants, maintenant sous contrôle républicain. Le plafond de la dette est fixé à quelque 31 milliards de dollars. Si l'impasse se poursuit après le 1er juin, a averti Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain, les États-Unis pourraient se trouver dans l'incapacité de payer les factures, les salaires et rembourser les créanciers.
La Maison-Blanche a confirmé aujourd'hui que Joe Biden, en pleine offensive diplomatique pour contrer la Chine, fera un arrêt historique en Papouasie-Nouvelle-Guinée entre un sommet du G7 au Japon et un passage en Australie. L'État océanien avait déjà annoncé la venue le 22 mai du président américain. Le sommet du G7 se tiendra du 19 au 21 mai en Australie et Joe Biden a ensuite prévu de se rendre en Australie, un autre allié dans cette région. Au Pakistan, l'ancien premier Premier ministre Imran Khan a été arrêté ce mardi pendant sa comparution devant un tribunal d'Islamabad pour répondre d'accusations de corruption, une mesure qui a provoqué des manifestations du nord au sud du Pakistan. La police a eu recours à du gaz lacrymogène et à des canons à eau pour disperser les partisans de M. Khan qui protestaient à Karachi et à Lahore. Et le président russe Vladimir Poutine a promis aujourd'hui la victoire en Ukraine lors de commémoration de la défaite de l'Allemagne nazie. Alors que cette cérémonie annuelle est censée exalter la puissance russe, malgré les revers sur le front, les États-Unis ont annoncé un nouveau programme d'aide militaire pour Kiev. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Les services du FMI et le Niger ont conclu un accord d'environ 133,4 millions de dollars pour renforcer la stabilité macroéconomique et jeter les bases d'une croissance résiliente, inclusive et tirée par le secteur privé. L'accord, signé dans le cadre de la facilité élargie de crédit et d'un programme de résilience, est soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI qui pourrait se réunir en juillet. La mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait permettre une hausse de plus de 50% des échanges commerciaux entre les pays du continent, selon un rapport du FMI publié le 5 mai. La zone de libre-échange continentale africaine boosterait également de 29% des exportations et de 7% des importations entre l'Afrique et le reste du monde.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Real Madrid et Manchester City, les rois d'Europe, s'affrontent aujourd'hui pour la suprématie.
Du haut de ses 14 couronnes continentales, le Real Madrid, champion d'Europe en titre, toise de haut. Pour l'instant, Manchester City au palmarès quasi vierge sur la scène européenne, mais qui s'impatiente de renverser la hiérarchie en demi-finale à l'aide de Ligue des Champions ce mardi au Bernabeu. Les autoproclamés rois d'Europe vont-ils abdiquer? La recette est ancestrale, l'entraîneur expérimenté, et malgré des joueurs vieillissants, le Real Madrid est toujours là. Hier lundi, le milieu de terrain espagnol de City, Rodri, a parlé de revanche, mais Guardiola a réfuté cette vision. On a appris la leçon. La leçon, c'est ce qu'on ne vient pas se venger. On vient se saisir de cette nouvelle opportunité à assurer le cerveau catalan des citizens. Et cette année, Guardiola et les siens présentent un nouvel atout maître, Erling Haaland.
Milan-Inter, une fête des voisins sur la piste aux étoiles.
Milan va redevenir demain mercredi une place forte du football européen avec un euro derby forcément bouillant entre l'AS Milan et l'Inter Milan pour se disputer une place en finale de Ligue des Champions. La capitale lombarde déjà assurée d'être en finale le 10 juin à Istanbul contre Manchester City où le Real Madrid reste à désigner l'heureux élu entre le club rossonero, déjà vainqueur cette fois de la prestigieuse compétition dernière en 2007, et son grand rival Nerazzurro, sacré trois fois ultime en 2010. Le derbissimo italien s'annonce comme un sommet de passion et d'histoire entre les deux voisins opposés pour la 236e fois, toute compétition confondue depuis la première fois en 1909.
Le départ de Messi pour l'Arabie Saoudite est une affaire conclue.
C'est une source saoudienne proche des négociations qui le confirme en qualifiant le contrat d'énorme. La star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, jouera en Arabie Saoudite la saison prochaine, a affirmé cette source sous couvert d'anonymat. Le départ du footballeur argentin pour le riche royaume du Golfe est une affaire conclue. Plusieurs médias ont évoqué ces derniers jours l'existence d'une offre mirobolante du club concurrent d'Al-Hilal, évalué à 400 millions d'euros par an pour faire venir Messi. Il devrait retrouver dans le championnat local la star portugaise Cristiano Ronaldo, joueur d'Al-Nassr depuis le mercato hivernal. Sollicité par l'AFP, le PSG s'est borné à rappeler que le contrat de Messi courait jusqu'au 30 juin.
Ici en NBA, les Lakers et les Heat entrevoient les finales de la conférence.
Les Lakers, sauvés par l'inattendu le New Yorker, intenable au dernier carton, ont battu à l'arraché les Warriors 104-101 et ne sont plus qu'à une victoire de la finale de conférence ouest, tout comme le Heat à l'est, solide vainqueur des Knicks 109-101 lundi.
Golden State, champion sortant, est proche de la sortie. New York est également dos au mur.
Page de sport VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Plus de 5500 personnes restent introuvables 4 jours après les pluies qui ont amené des inondations dans plusieurs villages dans le territoire de Calais, dans le sud Kivu, dans l'est de la RDC. Les morts se comptent à plus de 411. Eddie Sango a joint l'administrateur du territoire de Calais, Thomas Dirmwa Bagabo Bakenga.
Depuis hier, on était à 400, mais maintenant là, nous sommes à 411. 11 corps est déjà trouvé sans vie. Il y a encore, disons, 6 corps qui ne sont pas encore animés, ensevelis. Mais nous sommes à 412, 11 corps déjà retrouvés et ensevelis. C'est encore provisoire.
Et quelle est la situation des survivants, de ceux qui ont survécu? Il y en a qui n'ont pas de maison, tout ça là.
Non, mais présentement, il y a déjà quoi espérer parce qu'ils se sont consolés. Parce que c'était pas facile à gérer sur le plan psychologique, mais l'appui du gouvernement national, local au niveau de la province, a amené un souffle et une consolation pour la communauté. Ce qui est pour nous une satisfaction et à nos autorités. Nous voyons la présence de son excellence et Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo qui est aux côtés permanents de sa population. Et hier, quand il a décrété une journée de deuil national, ça nous a beaucoup réconfortés. Nous avons vu des visites de partout et nous étions très très consolés, comme l'avons toujours été depuis le vendredi et après la soirée du sinistre. Donc psychologiquement, la tension est plus ou moins stable, bien que les soucis de survivants restent toujours permanents.
Est-ce qu'on connaît les nombres de ces gens qui ont survécu? Combien sont-ils? Dans quel état vivent-ils?
C'est très difficile pour le moment. C'est très difficile d'avoir les chiffres exacts par rapport aux survivants. Parce que la catastrophe a tout balayé. Elle a tout emporté. Il y a d'un côté, on a balayé les villages. De l'autre côté, on a balayé et on a inondé. Ceux qui sont survivants, ceux qui sont sauvés. Ils ne sont pas encore de retour, ils sont en train de venir, la moitié, un petit nombre. Dans les 72 heures, on pourrait trouver peut-être un chiffre exact qu'on peut proposer pour avoir plus de précision. Mais sinon, nous sommes en train de voir certains, ils sont encore un petit nombre. Et voilà ce qu'on peut vous dire en quelque sorte. Parce que maintenant, nous imaginons qu'il y a plus de 5000 disparus. Vous imaginez, là on a perdu plus de 5000 personnes. Imaginez si tôt, typiquement, il y a un nombre de survivants, ça serait très difficile avant 48 heures. Ah oui.
Thomas Dirmwa Bagabo Bakenga, l'administrateur du territoire de Calais dans le sud Kivu.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné en appel à une peine de 6 mois avec sursis, ce qui peut compromettre son éligibilité, sa participation à la présidentielle de 2024. Une décision qui divise les Sénégalais. Ces derniers se défoulent aussi sur les mauvaises pratiques des hommes politiques. De notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Juridiquement acceptable mais politiquement désastreux, voilà l'analyse de Badara Diatta suite à la condamnation de Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis. Pour ce comptable, la probable inéligibilité du leader de PASTEF pour 5 années peut rapidement provoquer des heurts dans le pays.
Côté juridique, c'est pas sévère, mais en tant que citoyen, moi je le déplore. Parce que déjà, nous ne pouvons pas être dans un pays où il ne doit pas y être ou y avoir, même je devrais dire, de potentiels candidats. Nous sommes dans un pays pauvre où pas mal ou bien en majeure partie les jeunes ne travaillent pas. Et ils se voient par rapport au programme de leur leader. Donc avec cette décision, il y aura beaucoup de jeunes, ou bien de gens, je dirais même, qui vont être motivés donc, de sortir ou bien de se plaindre ou bien de montrer qu'ils ne sont pas d'accord.
De son côté, Ablaye Niang minimise les choses et pense que l'effritement actuel de l'opposition fait que ce qui s'est passé en 2021 ne peut pas se reproduire.
Il y aura certainement des manifestations ça et là, mais je ne pense pas que les violents affrontements de mars 2021 qui avaient fait 14 morts puissent se reproduire parce que l'opposition n'est même pas sincère, donc elle ne pourra plus mobiliser les Sénégalais à ce point.
Matar Fall se veut républicain malgré ce verdict qu'il ne cautionne pas totalement. Pour ce vendeur de quincaillerie, il faut éviter de fragiliser les institutions et les laisser accomplir les missions qui sont les leurs.
La vie ne se limite pas au présent. Il faut penser au futur et à toutes les conséquences qu'auront les actes que nous posons aujourd'hui. Si chacun se fait justice, ce sera le désordre et la porte ouverte à toutes les dérives. C'est mieux de laisser la justice faire son travail, mais il faut cependant que l'impartialité demeure. La politique de deux poids, deux mesures ne peut pas être pérenne dans un état de droit.
Renvoyant dos à dos le pouvoir et l'opposition, Ablaye Niang, qui a eu à servir le pays sous les drapeaux et en tant que diplomate, regrette que les hommes politiques bloquent le développement du Sénégal.
Les hommes politiques ne parlent que très rarement de programmes et de projets de développement. Leur cheval de bataille est la politique politicienne. Comment aller aux élections, comment accepter la candidature de celui-ci, refuser celle de celui-là. Les politiciens sont tous pareils, car ils ne s'occupent que de leurs intérêts, pas de ceux du peuple.
À Dakar, c'est calme pour le moment, 24 heures après le jugement de Ousmane Sonko. Maintenant, il a 5 jours pour se pourvoir en cassation devant la Cour suprême. La coalition d'opposition Yewé Askanoui appelle à la mobilisation. Il faut que le peuple se mobilise pour soutenir Ousmane Sonko, a déclaré Khalifa Sall, l'un des chefs de file de cette coalition. Même si certains citoyens ne sont pas d'accord avec le verdict, ni avec l'attitude des politiciens, ils jugent que cette condamnation ne devrait en aucun cas être une source de tension ou d'émeute dans le pays. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au 25e jour de combat consécutif, la situation à Khartoum reste désespérée. Depuis le 15 avril, les affrontements ont déjà causé la mort de plus de 750 personnes et forcé près de 150 000 à fuir leur foyer. La violence continue de ravager la ville, laissant de nombreux civils piégés dans une situation précaire et incertaine. Eric Manirakiza a joint à Khartoum Salah Mohamed El Hassan Osman.
Depuis hier, on était à 400, mais maintenant là, nous sommes à 411. 11 corps et déjà trouvé sans vie. Il y a encore, disons, 6 corps qui ne sont pas encore inhumés, ensevelis. Mais nous sommes à 412, 11 corps déjà retrouvés et ensevelis. C'est encore provisoire.
Quelle est la situation de survivants, de ceux qui ont survécu? Il y en a qui n'ont pas de maison, tout ça là.
Non, mais présentement, c'est il y a déjà quoi espérer parce qu'ils sont consolés, parce que c'était pas facile à gérer sur le plan psychologique, mais l'appui du gouvernement national, local au niveau de la province, a amené un souffle et une consolation pour la communauté, ce qui est pour nous une satisfaction et à nos autorités. Nous voyons la présence de son excellence et Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo qui est aux côtés permanents de sa population. Et hier, quand il a décrété une journée de deuil national, ça nous a beaucoup réconfortés. Nous avons vu des visites de partout et nous étions très très consolés, comme nous l'avons toujours été depuis le vendredi et après la soirée du sinistre. Donc psychologiquement, la tension est plus ou moins stable, bien que les soucis des survivants restent toujours permanents.
Est-ce qu'on connaît les nombres de ces gens qui ont survécu? Combien sont-ils? Dans quel état vivent-ils?
C'est très difficile pour le moment. C'est très difficile d'avoir les chiffres exacts par rapport aux survivants. Parce que la catastrophe a tout balayé. Elle a tout emporté. Et il y a d'un côté, on a balayé les villages. De l'autre côté, on a balayé et on a inondé ce qui est survivant et ce serait ce qui se serait sauvé. Ils ne sont pas encore de retour. Ils sont en train de venir, la moitié, un petit nombre. Dans les 72 heures, on pourrait trouver peut-être un chiffre exact qu'on peut proposer à, pour avoir plus de précision. Mais sinon, ils sont en train de voir certains. Ils sont encore un petit nombre. Et voilà ce qu'on peut vous dire en quelque sorte. Parce que maintenant, nous imaginons qu'il y a plus de 5000 disparus. Vous imaginez, là, on a perdu plus de 5000 personnes. Imaginez, sitôt, typiquement, les nombres survivants, ça sera très difficile avant 48 heures. Ah oui.
C'était le journaliste Mohamed El Hassan Osman, habitant de Khartoum.
Alexandrine Frologno avec vous dans Washington Forum cette semaine. La désinformation qui prend de plus en plus d'ampleur. Le phénomène inquiète les États et les professionnels des médias. La manipulation et la désinformation se sont intensifiées avec l'avènement des réseaux sociaux et la propagation rapide de l'information en ligne. Reporters sans frontières émet un constat alarmant sur la profusion d'informations provenant de différentes sources, mais sans qu'on ne soit sûr de leur véracité et de leur impartialité. Comment venir à bout de la désinformation en ligne et garantir un accès à une information de qualité et fiable? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Célébrer le savoir-faire culinaire ainsi que les saveurs et traditions africaines, c'est l'ambition du festival La Marmite, une initiative togolaise qui rend hommage à la cuisine africaine et ses richesses. La seconde édition du FESMA s'est déroulée à Lomé. L'une des grandes questions abordées est celle de la qualité des produits utilisés en cuisine pour une alimentation plus saine. Reportage de notre correspondante Amène Assignon à Lomé.
Mettre au goût du jour des mets africains raffinés ou des plats locaux avec des sauces diversifiées, comme ici de la sauce d'Adémé, de Goma, des spécialités togolaises. L'objectif reste le même, régaler les consommateurs. La gastronomie africaine a tout pour plaire, mais encore faut-il mieux la valoriser pour la positionner. C'est l'opinion du chef cuisinier Pépin Kunkel.
Valoriser la cuisine africaine, c'est beaucoup, c'est très simple. Il faut la proposer d'abord. La proposer aux gens qui aiment l'Afrique, aux gens qui veulent découvrir l'Afrique, et seront nos meilleurs ambassadeurs.
La proposer, oui, mais surtout bien l'étoffer pour créer l'envie. Un travail auquel les chefs cuisiniers africains comme Aristide Mponou s'attellent de plus en plus.
Aujourd'hui, nous, on a la chance de quitter la formation de nos mamans. On a fait la formation professionnelle. Donc, on apporte cette touche-là pour corriger un peu les irrégularités, essayer d'étoffer un peu les recettes, et donner les mesures, les techniques et modes de cuisson pour l'amener à table.
Si la cuisine africaine mise sur la diversité culinaire pour séduire les papilles, elle a toutefois un autre défi à relever. Celui de la qualité des produits utilisés pour rendre les assiettes plus saines. Pépin Kunkel.
Nos assiettes, effectivement, ont un problème à ce niveau-là. Le gras et le sel. Si on soustrait à nos assiettes l'excès de gras et du sel, on a tout gagné.
La santé par l'alimentation, une question cruciale sur laquelle le festival La Marmite a mis un accent particulier cette année. Jean-Paul Agbo a Ouéléthé est le commissaire général du festival.
Aujourd'hui, plus que jamais, il est établi le lien entre notre alimentation, ce que nous mangeons et notre santé. Donc il est nécessaire de repenser ce que nous mettons dans notre assiette. Il est important aujourd'hui, aussi bien pour les cuisiniers, mais pour tous ceux qui font à manger, de repenser non seulement les produits utiliser, mais la manière aussi de les utiliser.
Miser sur la qualité revient aussi à promouvoir les produits locaux, dit l'exposante Maoussé Akoli.
Spécialement pour cette édition, nous exposons le dinkoumé avec le poulet local, du pinon avec le poulet local et les poissons sifio, dorade, etc. Donc cette année, je me suis dit que ça serait encore une occasion d'exposer les produits de chez moi parce que j'adore le local.
De la ferme à l'assiette, les regards sont tournés vers les produits locaux bio comme solution pour une alimentation durable et saine. Amène Assignon pour VOA Afrique. Le Monde.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.